L'heure de retrouver Antoine Mercier pour le journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les candidats à la primaire à gauche ont jusqu'au 15 décembre pour se déclarer. Le scrutin reste suspendu à la décision de François Hollande. Une candidature du président hors primaire tuerait le PS, affirme ce matin Arnaud Montebourg. Nous l'entendrons, ainsi que l'analyse de Ludovic Piétenu. En Italie, le référendum de dimanche sur la réforme du Sénat a tourné au vote pour ou contre Matteo Renzi. Le nom était toujours en tête, en tout cas avant l'interdiction de la publication des sondages correspondance de Mathilde Imberti à Rome. Après avoir nommé un ancien de Goldman Sachs au Trésor, Donald Trump se rend dans une usine de l'Indiana, symbole de sa promesse de mener une politique anti-délocalisation. Explication du paradoxe et commentaire d'Anne-Laure Choix. La guerre en Syrie et en Irak, des scénarios parallèles se déroulent à Alep, deuxième ville de Syrie, et à Mossoul, deuxième ville d'Irak, avec dans les deux cas des situations humanitaires catastrophiques suivies de Nabila Hamel. En France, la bataille autour de l'IVG, qui revient aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec l'examen d'une proposition de loi socialiste pour pénaliser les sites dits de désinformation qui sont cette proposition combattue par la droite et la hiérarchie catholique. Compte rendu des débats de ce matin avec Antoine Marette. On l'apprend à l'instant, le célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow est mort à Dakar aujourd'hui, annonce faite par sa famille. L'invité de la séquence interview, Christophe Borgel, président du comité national d'organisation de la primaire du Parti Socialiste. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jasbert.
Faut-il déplorer le silence des intellectuels ou plutôt apprendre, savoir, l'écouter? Nous en reparlerons avec le philosophe Jean-Luc Nancy dans la dernière partie de la Grande Table à partir de 12h55.
Et voilà, c'est parti pour la primaire à gauche avec l'ouverture pour une période de 15 jours de la remise, période de remise des parrainages requis. C'est parti, mais c'est bien loin d'être arrivé. Le trouble et l'incertitude se maintiennent sur l'organisation de ce scrutin. D'une part parce que deux candidats, Mélenchon et Macron, se sont déjà lancés dans la course en enjambant cette primaire. Et d'autre part parce qu'on attend toujours que François Hollande fasse connaître sa décision. Va-t-il y aller? Et si oui, va-t-il vouloir passer par cette fameuse primaire? Ces deux questions restent entières pour le moment, même s'il y a des rumeurs ce matin qui circulent sur un éventuel renoncement du chef de l'État. On va reparler. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors c'est aujourd'hui que s'ouvre cette période de 15 jours, période de dépôt officiel des candidatures. Avant de faire le point avec vous de cette situation compliquée et les perspectives aussi qu'elle recèle, un mot des dernières annonces et déclarations. D'abord Arnaud Montebourg, qui a été le premier ce matin à déposer sa candidature et qui a lancé cet avertissement.
Si François Hollande décidait d'outrepasser la primaire, de se présenter au suffrage universel des Français contre la primaire, ce serait la fin, la destruction finale du Parti socialiste et du parti de Jean Jaurès. Il prendrait là une responsabilité devant l'histoire considérable. Il serait celui qui aura laissé un champ de ruines derrière lui, alors qu'il avait été mandaté pour rebâtir et construire un autre pays et le camp progressiste. C'est donc pour moi impensable, puisqu'il y aura plusieurs candidats socialistes. Celui issu de la primaire et un candidat exclu du Parti socialiste qui serait l'actuel président de la République.
Arnaud Montebourg, donc avec Julie-Marie Lecomte. Parmi les autres candidats prédéclarés, il faut donc citer Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, à qui s'ajoute hors PS l'écologiste François Drugy, Jean-Luc Benamias, qui était hier notre invité, et Pierre Larouturou, investi par les militants de Nouvelle Donne et qui a fait acte de candidature officiellement ce matin. Il dit vouloir relancer l'Europe et il a présenté ce matin une mesure phare pour le climat.
Un des dossiers qui nous tient à cœur, c'est l'idée d'un vrai plan Marshall pour le climat. Vous savez peut-être que la Banque centrale, Mario Draghi, va créer 1 000 milliards qu'il veut donner aux marchés financiers. Nous, ce qu'on dit, c'est que ces 1 000 milliards doivent financer pendant 20 ans un plan Marshall pour sauver le climat. Et qu'en France, en Allemagne, en Italie, on ait de quoi payer des gens pour économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. Et avec nous, je suis fier qu'on ait en même temps un des plus grands climatologues de la planète, Jean Jouzel, prix Nobel de la paix, ancien vice-président du GIEC, et Philippe Mechtat, qui a été pendant 12 ans patron de la Banque européenne d'investissement. Donc on a un prix Nobel de la paix et un ancien patron de la Banque européenne d'investissement qui disent « c'est juste une question de volonté politique, mais au lieu de donner 1 000 milliards aux marchés financiers, on peut les mettre sur un plan Marshall et ça va créer 600 000 emplois en France et c'est le seul moyen d'éviter une catastrophe climatique. » Ça a de l'allure et on va faire campagne et on montre qu'on a des alliés en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique pour très vite reconstruire une Europe sociale, une Europe démocratique.
Pierre Larouturou, propos recueillis par Ilan Malka. Tout s'organise donc comme si de rien n'était. Or, il y a une véritable épée de Damoclès, on le sait, qui plane sur ce scrutin. C'est la décision de François Hollande. Ludovic Piétenu, quels sont, à l'heure qu'il est, les scénarios possibles et envisagés?
Eh bien, François Hollande pourrait avoir l'outrecuidance d'outrepasser la primaire, comme disait avec son ton et ses mots si particuliers Arnaud Montebourg. Ce serait pour le moins baroque. On aurait là un président socialiste sortant qui ne serait pas investi par le Parti Socialiste et qui se retrouverait face au candidat désigné par la primaire ouverte de la gauche, une option dévastatrice pour lui-même et pour la gauche, et même ses amis qui le lui conseillent ce choix, ils ne sont pas très nombreux. Stéphane Le Foll, Bruno Le Roux, Jean-Pierre Mignard ou Bernard Poignant, l'ancien député maire de Quimper, des très très proches, un carré de fidèles, les quatre mousquetaires, ils savent eux-mêmes ses chances de victoire infimes. Il existe aussi la possibilité qu'Hollande se présente à la primaire comme il s'y est engagé un peu plus tôt cette année, là aussi situation baroque, il se retrouverait à débattre à la télévision devant deux de ses anciens ministres, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, au risque d'une perte considérable d'autorité, voire d'une crise institutionnelle s'il devait perdre ce scrutin, écrivait hier soir mon confrère Richard Verly, le correspondant du quotidien suisse Le Temps à Paris, qui croit de plus en plus probable l'option que le chef de l'État fasse le choix du renoncement. Sa crédibilité, écrit-il, est trop entamée, même si le bilan du quinquennat commence à apparaître plus positif. Ses résultats sont trop mitigés pour être intelligibles. Il y aurait selon lui une forme de grandeur à accepter de tirer les conséquences d'un désaveu populaire. Et tant pis pour l'humiliation médiatique, écrit encore mon confrère, il serait le premier président monarque de la République française qui redescend sur terre et dit stop de lui-même. Dans ces cas-là, on l'a bien compris, depuis le début de son offensive en septembre, Manuel Valls se tient prêt.
Ludovic Piétenu, merci beaucoup. Bonjour Christophe Borgel.
Bonjour.
Alors c'est donc vous qui avez en charge d'organiser cette primaire. On vous souhaite beaucoup de courage apparemment.
C'est gentil,
ça a l'air assez compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, avec certitude, qu'une primaire à gauche va se tenir les 22 et 29 janvier prochains?
Oui.
Elle se tiendra quelle que soit la décision de François Hollande?
Oui. La...
C'est-à-dire s'il décide
les
notamment...
mots de Ludovic Piétenu à l'instant montrent à quel point l'hypothèse d'une candidature en dehors de la primaire n'est pas envisageable.
Et si c'était le cas?
Je pense que c'est pas envisageable. Donc, si vous voulez, je peux commenter. Il y a plein de choses dont je pense que c'est pas envisageable. Je pourrais commenter. Non. On va essayer de commenter.
L'hypothèse du renoncement, elle est plus envisageable.
Mon rôle, c'est d'organiser la primaire. C'est pas de participer aux commentaires pour savoir ce que va faire le président. Il va le dire dans les jours qui viennent. Je sais pas si c'est les 4 jours ou les 10 jours. Mais de toute façon, c'est les jours qui viennent puisque le 15 décembre, c'est dans 15 jours. Donc, ça va aller vite. On a décidé d'organiser une primaire, pas par rapport à tel ou tel, mais pour une raison simple, auxquelles ne répondent pas ceux qui viennent pas dans la primaire. C'est que dans tous les sondages, on voit que s'il y a et un candidat de la primaire, et M. Macron, et Jean-Luc Mélenchon, et je ne sais qui, des Verts ou de l'extrême-gauche, mais il n'y a pas la gauche au second tour. Et il y a d'un côté Fillon...
C'est pas la primaire qui va empêcher Mélenchon et Macron
de se présenter. Non, mais si vous avez du monde qui vient voter à la primaire, vous avez une dynamique derrière un candidat, et vous avez un peuple de gauche qui dit... On voit bien les nuances, mais on veut surtout que face au reste, il y ait un destin progressiste possible pour le pays.
Merci beaucoup Christophe Borgel. On vous retrouve donc à la fin de cette édition pour la séquence interview. On reviendra évidemment sur la manière dont pourrait se dérouler cette consultation. Il y a deux élections à haut risque ce dimanche en Europe. D'abord en Autriche, dernier débat télévisé ce soir avant le second tour de la présidentielle. L'écologiste Alexander Van der Bellen et l'élu d'extrême droite Norbert Hofer sont toujours au coude à coude dans les dernières enquêtes d'opinion. Et puis en Italie, ce référendum sur la réforme du Sénat officiellement qui a tourné au vote pour ou contre Renzi. Le nom était en tête assez largement d'ailleurs dans les derniers sondages. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le soutien de dernière minute du ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble soit d'un grand secours pour le Premier ministre italien Mathilde Lamberti.
La campagne a nettement dépassé les frontières de l'Italie. Matteo Renzi a reçu le soutien de Barack Obama, d'Angela Merkel et cette semaine du ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble, qui s'affronte pourtant ouvertement avec l'Italie sur les questions de budget. Schäuble déclare que s'il était italien, il voterait en faveur de la réforme constitutionnelle. Cette succession de déclarations en faveur du oui, mais de la part de personnalités étrangères, donne du grain à moudre au mouvement 5 étoiles et à son leader Beppe Grillo, adversaire acharné de ceux qu'il appelle les méga bureaucrates. démocrate. Grillo appelle les Italiens à voter dimanche avec leur trip. Matteo Renzi, lui, cherche dans la dernière ligne droite, précisément, à prendre ses distances avec l'establishment. « Je représenterai l'establishment », s'étonne le quarantenaire. Mais c'est la caste qui vote non dimanche, la caste qui a bloqué l'Italie. Regard insistant vers l'ancien président du Conseil, Massimo D'Alema, qui mène la fronde anti-Renzi, à l'aile gauche du Parti démocrate. Matteo Renzi laisse entendre également que s'il lui était donné de rester au gouvernement, alors il demanderait la permission aux parlementaires d'opposer son veto au prochain budget de l'Europe. Car à une Europe de la technocratie et des diktats, répète-t-il volontiers, il préfère une Europe des valeurs.
Et lors d'une conférence politique internationale à Berlin, Wolfgang Schäuble a aussi eu des mots élogieux pour le programme économique de François Fillon. Il dit espérer que Mme Le Pen ne deviendra jamais présidente en France. Et selon un quotidien financier allemand, M. Schäuble, encore lui, redouterait aussi les conséquences, à moyen terme en tout cas, du programme économique de Donald Trump. Le président élu se rend aujourd'hui dans une usine de l'Indiana, qui est le symbole de sa promesse de mener une politique anti-délocalisation, politique qu'il entendrait conduire donc avec les ministres qu'il a nommés hier, ministre du Trésor et du Commerce, bien que ceci soit plutôt des représentants du monde de la finance. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Cette direction choisie par Trump n'apparaît pas encore vraiment très clairement.
Mais il faut reconnaître que pour celui qui avait fait de la lutte contre les délocalisations son cheval de bataille, c'est une première victoire. L'entreprise United Technology, qui avait prévu de délocaliser sa production au Mexique, va finalement maintenir 1 millier d'emplois à Indianapolis. Et c'est pour fêter cela que Donald Trump s'y déplace aujourd'hui. Évidemment, il y a des contreparties. L'entreprise va bénéficier d'importantes aides de l'État de l'Indiana. Par ailleurs, ce que croit savoir le New York Times, c'est que cette victoire a été obtenue après la promesse de mettre en place une réglementation et une fiscalité plus favorables aux entreprises. Donald Trump aurait par ailleurs accepté de baisser le ton sur sa fameuse taxe douanière de 35% sur tous les produits venant du Mexique. Désormais, d'ailleurs, les nouveaux nommés par le républicain ne parlent plus de protectionnisme trop péjoratif, selon le nouveau secrétaire au commerce Wilbur Ross, autre milliardaire de la future administration Trump. En tout cas, pour les électeurs qui avaient cru à la promesse d'une révolution à Washington, c'est raté. Jamais une administration n'aura compté autant de milliardaires. Quant aux critiques de Trump sur Wall Street et les banques d'affaires, elles sont, pour ainsi dire, oubliées. Wilbur Ross, donc, dont on vient de parler, surnommé le roi de la banqueroute, a bâti sa fortune en redressant des entreprises en difficulté, c'est-à-dire en taillant dans leurs effectifs. Et puis évidemment, l'ancien patron de Goldman Sachs, nommé à la tête du Trésor, Steven Mnuchin. Il a lui fait fortune via des pratiques financières largement dénoncées, critiquées, voire punies après la crise des subprimes. Mais Donald Trump a besoin de Wall Street et si le monde de la finance est prudemment tenu à l'écart de sa campagne, il l'a quand même financé pour partie. Enfin, si ses discours de campagne sur la rémunération des traders a pu heurter, sa promesse de revenir sur la loi post-2008 qui réglemente le monde de la finance a été un argument de poids. Et puis enfin, rien de mieux que des ministres issus du monde de la finance pour rassurer le monde des affaires. Quant aux électeurs de Trump, ils se contenteront pour l'instant de cette première relocalisation d'Indianapolis. Il faudra réitérer plus d'une fois ce genre de coup pour ne pas les décevoir tout à fait.
Anne-Laure Chouin, merci beaucoup. Et puis autre changement de pied, changement de langage en tout cas par rapport au Pakistan et à ses dirigeants. Selon Islamabad, le président américain élu a couvert d'éloges le Pakistan, son peuple, son premier ministre. Premier échange téléphonique à l'initiative du chef du gouvernement Nawaz Sharif. Le gouvernement a publié donc un compte-rendu inhabituellement direct de cette conversation. Vous êtes un type super, a dit Trump. Vous faites un travail extraordinaire qui se voit partout et votre pays a des opportunités énormes. Fin de citation donc de Donald Trump. La guerre en Syrie et en Irak avec des scénarios étonnamment parallèles qui se déroulent à Alep d'une part, la deuxième ville de Syrie, et à Mossoul d'autre part, la deuxième ville d'Irak. Dans les deux cas, des armées régulières qui sont appuyées par une aviation alliée qui affronte des combattants isolés mais tout à fait déterminés. Et dans les deux cas, évidemment, Nabila Hamel, des situations humanitaires catastrophiques.
Oui, dans les deux cas, il s'agit de grandes villes, donc à forte concentration humaine. Avant la guerre, Alep était la capitale économique de la Syrie. Mossoul, vous le disiez, est considérée comme la deuxième ville d'Irak. Aujourd'hui, on estime qu'il y a encore des centaines de milliers de civils sur place à Mossoul. Ils y restent parfois par choix, mais souvent de peur de fuir au milieu des combats. Car oui, si l'armée irakienne d'un côté, les Peshmerga de l'autre, avancent lentement pour déloger les combattants de l'EI, si la coalition internationale poursuit ses bombardements en appui, si les djihadistes ont recours de leur côté aux camions piégés et à des kamikazes dès qu'ils sentent une avancée de l'armée, eh bien la population en ressent les conséquences. Dernière en date, cette énorme pénurie d'eau qui touche 1,5 million de personnes et qui fait craindre l'apparition d'épidémies. La réparation de la canalisation peut prendre du temps car selon des informations sur place, elle se trouve dans le secteur encore entre les mains des djihadistes. L'aviation de la coalition, de son côté, annonce avoir mis hors d'usage 4 des 5 ponts de Mossoul sur le Tigre et a fait des cratères sur les routes pour, dit-elle, éviter la progression des djihadistes qui seraient entre 3000 et 5000 dans la ville. Du coup, il est difficile même pour les civils de fuir. Ceux qui ont réussi à le faire sont dans des camps gérés soit par l'armée irakienne, soit par les troupes du gouvernement du Kurdistan, mais sont réduits à ne pas pouvoir bouger ou appeler leurs proches de la rétention de facto, affirmait l'organisation Human Rights Watch.
Merci beaucoup Nabila Hamel.
Midi 45 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Mercier.
Retour à l'actualité française avec la bataille autour de l'IVG qui est revenue aujourd'hui donc à l'Assemblée nationale. C'est le début de l'examen d'une proposition de loi socialiste qui vise à pénaliser certains sites. Il y a au moins 4 ou 5 sites internet qui parlent d'IVG qui sont dans les viseurs des députés et du gouvernement qui les accusent de diffuser des informations biaisées sur l'avortement. En tout cas, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, affirmait ce matin son opposition à cette proposition de loi PS qu'il juge contraire à la liberté d'expression mais aussi à l'esprit de la loi Veil. Antoine Marette, bonjour, vous avez suivi, vous continuez de suivre pour nous ces débats à l'Assemblée nationale.
Et sur ce texte, on a effectivement ce matin une ligne de fracture assez claire entre la droite et la gauche. D'un côté, la majorité à l'origine du texte place le débat au niveau de l'IVG. La ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes explique qu'un droit, celui d'avorter en l'occurrence, n'est pas un droit s'il ne peut être librement exercé. Et ces sites internet anti-choix sont une nouvelle forme numérique de délit d'entrave. Dans les années 80-90, il y avait les commandos anti-IVG. Désormais, il y a ces plateformes qui vont se masquer, qui trompent les femmes en donnant de fausses informations. Le seul but de ces sites, c'est de dissuader ces femmes de mettre un terme à leur grossesse. Pour la ministre, ce texte ne remettra pas en cause la liberté d'expression. Chacun, s'il le souhaite, pourra continuer à clamer son hostilité à l'avortement. Seule la tromperie sera interdite. À l'opposé, à droite, c'est bien cette question de liberté d'opinion qui est en jeu dans ce débat, et pas la question de l'IVG. Pour le député LR Christian Kert, ces sites hostiles à l'IVG n'ont rien à voir avec les commandos anti-IVG. Ils mettent à disposition des internautes des informations différentes des sites officiels. Christian Kerr dénonce un texte mal ficelé. Vous voulez faire disparaître de la toile les témoignages des femmes qui ont mal vécu leur IVG. Vous voulez faire condamner ceux qui pensent différemment de vous, dit-il, en s'adressant à la majorité. Christian Kerr qui cite Charlie Hebdo. Ce délit d'entrave à l'IVG est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont favorables au droit à l'avortement. Croyons-nous nos arguments si faibles qu'il faille interdire ceux de nos adversaires? Propos cité par Christian Kert à l'Assemblée nationale et signé Guillaume Herder.
Merci beaucoup Antoine Marette en direct de l'Assemblée nationale. Avant de retourner vers notre invité Christophe Borgel et revenir sur cette primaire à gauche, un petit mot de la nouvelle qui nous est arrivée au moment où commençait ce journal, le décès du sculpteur sénégalais célèbre Ousmane Sow qui est mort donc à Dakar. C'est ce qu'annonce sa famille il y a quelques instants, Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour, Ousmane Sow était né à Dakar il y a 81 ans, très jeune. Il est venu en France, à Paris, sans un sou en poche d'ailleurs. Il renonce à faire les beaux-arts et passe un diplôme de kiné, métier donc de kinésithérapeute qu'il pratique jusqu'à l'âge de 50 ans. Car s'il sculpte depuis qu'il est tout petit, il ne se met réellement à le faire professionnellement qu'à cet âge-là, à 50 ans. D'ailleurs, son passé de kinésithérapeute n'est sans doute pas pour rien dans sa manière très précise de représenter le corps humain. Il est donc révélé en 87 au Centre culturel français de Dakar où il présente sa première série sur les lutteurs de Nouba et très vite sa carrière de sculpteur est lancée. En 93, il expose en Allemagne, en 95 à l'occasion du centenaire de la Biennale de Venise. En 99, son exposition sur le Pont des Arts à Paris attire plus de 3 millions de visiteurs. Il est connu pour ses séries de sculptures sur les Nouba, les Maasai, les Peuls, mais aussi pour des commandes qui lui viennent du monde entier. Un Victor Hugo pour la journée du refus de la misère chez Médecins du Monde, une œuvre pour marquer le combat des sans-papiers commandée par la mairie de Genève en Suisse, un Toussaint Louverture à Washington et à La Rochelle, un Mandela, un De Gaulle à Dakar. Sa dernière œuvre, intitulée Le Paysan, mesure 5 mètres de haut. Elle est commandée par le président de la République du Sénégal. Premier artiste noir à rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, il voulait faire de sa sculpture un hommage, dit-il, aux grands hommes qui l'ont aidé à ne jamais désespérer de l'humanité.
Ousmane Sow, donc mort aujourd'hui à Dakar. Merci beaucoup, Cécile de Kervas-Doué. Il est 12h50. Et bien, donc, nous retrouvons notre invité, Christophe Vorgel, et nous revenons à notre primaire à gauche, dont on a beaucoup parlé déjà avec vous, Ludovic Piétenu. Une première question, ou plutôt la suite des questions qu'on a à poser à notre invité.
Avec une surprise, on l'a entendu, Christophe Vorgel, dans ce journal, la candidature du parti Nouvelle Donne, Pierre Larouturou, 7e candidature, donc, à cette primaire. Comment vous recevez ça, vous, Christophe Vorgel, en charge de l'organisation de cette primaire?
On vient de nous le faire savoir. On a discuté au printemps dernier avec le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, dans le cadre de l'appel de l'IB de Yannick Jadot, d'une grande primaire de toute la gauche. Nouvelle Donne était autour de la table. Et on avait décidé, faute de cette primaire, de faire une primaire ouverte aux acteurs de la Belle Alliance Populaire. Le Parti des écologistes de François de Rugy et Emmanuel Cosse, l'UDE, le Front démocrate, Ben Amias, Jean-Vincent Placé, etc.
On a du mal à suivre quand même. Hein.
C'est la Belle Alliance Populaire, c'était quelque chose de très ouvert.
Et le Parti Nouvelle Donne n'en fait pas partie. Pierre Larouturou nous a fait savoir qu'il souhaitait participer à la primaire. C'est une question qui va être étudiée par le Comité national d'organisation de la primaire. Donc à ce stade, je ne peux pas répondre.
A priori recevable ?
J'ai pas d'a priori, puisque on a un comité national où je suis pas seul, je l'anime. Et donc, j'attends d'échanger avec les uns et les autres. C'est le côté, il y a eu 4 millions de votants à la primaire de droite, et c'est pourri. J'ai plein de gens hein, que vous connaissez pas qui écrivent en disant « j'ai des idées, j'aimerais bien qu'elles soient entendues ». Bon,
il y a quand même des critères pour être candidat.
Bien sûr, c'est pas simplement le moment où on vient exposer ses idées. C'est aussi une bataille pour avoir le meilleur candidat pour le camp progressiste au moment de la présidentielle. Donc, il faut réfléchir à tout ça.
En tant qu'organisateur, quand vous venez de vivre, comme nous tous, citoyens français, une primaire de la droite qui a mobilisé plus de 4 millions, près de 4 millions et demi même, de votants, comment vous sentez les choses alors qu'on est aujourd'hui jour du dépôt des candidatures dans une ambiance pour le moins houleuse, voire délétère?
Vous êtes quand même d'accord que cette situation est quand même assez dramatique pour la gauche?
On est dans une ambiance de division de la gauche. Houleuse...
Division, c'est mieux. Allez, émiettée, c'est bien aussi.
Absolument. Elle n'est même pas houleuse,
bien sûr,
vous voulez dire.
Mais elle est... Non, mais c'est une ambiance d'émiettement et qui dépasse le sujet de la primaire. Mais c'est exactement pour ça que nous faisons une primaire... Non pas en étant la force d'alternance, mais en étant au pouvoir. Certains ont dit que c'était baroque. C'est pas faux, parce que on se dit le président de la République dans une primaire. Mais si on le fait en assumant le fait que le président de la République, s'il était candidat, le soit à travers la primaire, c'est justement parce que ce que doit surmonter la gauche, c'est sa division. Or, c'est quoi l'autre moyen? Il y a ceux qui disent, c'est moi, ça passe par moi. Et je leur réponds, si la gauche veut arriver unie à la présidentielle, il faut que le « nous » c'est, le moi-je cède la place au nous. Et pour dire qui doit représenter le nous, ben je n'ai pas d'autre moyen, je ne connais pas d'autre moyen que de faire confiance à nos électeurs.
Vous êtes d'accord, comme on le disait tout à l'heure, que ni M. Mélenchon, ni M. Macron ne vont se retirer de la scène. Donc vous imaginez que le candidat, en imaginant que tout se passe bien, qui sortira de cette primaire, puisse effectivement avoir les voix suffisantes pour arriver au deuxième tour. Il y a quand même grande marge.
On verra qui se retire ou pas de la scène. Si vous voulez, je me souviens... Riez en moquant un peu de politologues qui peuplent les plateaux et toujours avec des propos définitifs. Il y a 8 mois, Alain Juppé était président de la République, il marchait sur l'eau. Il ne sera même pas candidat au premier tour de l'élection présidentielle. Donc je suggère à tout le monde de ne pas penser que l'histoire de cette présidentielle est écrite.
Si nous avons
une primaire avec beaucoup de votants, elle imposera une autre logique dans la gauche. Et croyez-moi, tous les candidats qui aujourd'hui disent « l'avenir c'est moi », ils réfléchiront à deux fois.
Vous organisez tous les mercredis une réunion à huis clos à Solferino pour aller vers cette primaire, pour organiser le nombre de bureaux de vote, a priori à près de 8000. Et hier matin, est-ce que vous pouvez nous rendre compte un peu de l'ambiance qui régnait autour de la table avec les représentants des candidats? Il y avait quand même un agacement certain chez Hamon, Lindemann, Montebourg, de dire au président « maintenant ça suffit ». Il faut sortir du bois.
J'ai vu qu'il vous a raconté la réunion, c'était pas...
Vous avez dû dire, devant tous les représentants des candidats, cette primaire se tiendra. Aura lieu.
Mais absolument.
C'est quand même dramatique d'en arriver là, la veille du dépôt des candidatures.
Parce qu'il y a un certain nombre de personnalités qui se sont interrogées. La question venait pas des candidats, elle venait de Thomas Clay, qui préside la haute autorité éthique qui suit la préparation de cette primaire.
Le juriste.
Et qui a dit, on a besoin d'une confirmation. Et de la même manière que j'ai répondu avec un oui très simple à votre première question, je leur ai dit, il n'y a pas d'inquiétude. Vous savez, la machine est lancée. On a étudié, bouclé les cartes des bureaux de vote dans
Est-ce
les deux tiers
tout
des départements.
Tout est réglé maintenant au niveau organisationnel ou il y a encore des questions en suspens?
Il n'y a pas de questions en suspens. Il y a un tableau de marche et on n'est pas au bout de ce tableau de marche.
C'est quand même un peu bizarre, non, de ne pas être au bout du tableau de marche alors que la campagne officielle démarre le 16 décembre,
excusez-moi.
Le scrutin est le 22 janvier.
Notre primaire en 2011, on a bouclé les derniers bureaux de vote à 3 semaines. La primaire des Républicains, à 48 heures, ils avaient encore des bureaux de vote sans volontaires. C'est une machine militante à organiser comme on en organise peu. Donc non, on est vraiment dans les temps. Il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Et on sait la machine militante socialiste un peu en panne. La difficulté de trouver des bénévoles, ça vous n'avez pas de doute
et
non plus.
Vous verrez. Je vous donne rendez-vous les 22 et 29 janvier. Il y aura 8000 bureaux de vote avec des volontaires dedans.
Voilà. Merci beaucoup, Christophe Bangel. On retient donc cette information. Il y aura bien une primaire à gauche, quoi qu'il arrive. C'est ce que vous nous avez dit ce midi à ce micro. Merci encore d'être venu dans ce studio. Un ciel couvert au nord et en particulier sur le nord-est, ensoleillé au sud, température de 8 à 15 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Mathilde Julien. Le prochain journal est à 18h avec Stanislas Vazak.